Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer du média suivant. La presse. Au programme, au théâtre avec une personne non-voyante. Mistral gagnant, Mistral perdant. Et 5 mythes sur la grossesse pour autrui. Bonne écoute.
Au théâtre avec une personne non-voyante. Un texte de Stéphanie Morin, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Pour la troisième fois de sa saison, le Théâtre du Rideau Vert a accueilli des spectateurs non-voyants à qui on a offert une visite tactile des décors et des costumes, ainsi qu'une représentation en théâtre-description. La presse était sur place. Depuis son tout jeune âge, Nicole Trudeau vit avec une déficience visuelle. Atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative congénitale, elle a perdu graduellement la vue jusqu'à ce que les silhouettes et les couleurs qu'elle distinguait vaguement disparaissent tout à fait. Ce qui n'a jamais disparu, toutefois, c'est l'insatiable curiosité de cet octogénaire, avide lectrice passionnée de concerts et de théâtre. C'est donc avec une joie non feinte qu'elle a accueilli les nouvelles initiatives du Théâtre du Rideau Vert, en particulier les visites tactiles et la théâtre-description destinée aux personnes non-voyantes. À la fin de mars, plus de 3 heures avant le début de la représentation de Pifluisant, une dizaine de personnes avec des limitations visuelles sont réunies dans la salle du théâtre de la rue Saint-Denis. C'est la troisième fois que Nicole Trudeau participe à l'activité et elle savoure chaque instant. Lorsque des employés du Rideau Vert lui présentent les costumes des différents personnages de la pièce campée au 19e siècle, elle explore chaque fibre du bout des doigts. Elle découvre ainsi les rayures satinées qui ornent un manteau, s'extasie devant les boutons texturés d'un gilet de brocart, pèse avec perplexité la lourdeur du costume de l'intendante. Ça ne devait pas être très pratique pour faire la cuisine. La couleur des tissus l'intrigue chaque fois. Elle a connu le jaune, le vert, le bleu dans son enfance et veut garder vivant leurs souvenirs dans sa mémoire. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas se faire une image mentale parce qu'on ne voit pas. Mais moi, je suis habité par un univers visuel qui m'est propre. J'ai un espace intérieur que j'ai besoin d'habiter. Je ne vis pas dans le noir ou dans un univers sans images. Recréer dans ma tête les expériences sensorielles que je vis me stimule et m'emballe. Je ne me sens pas en prison dans ma cécité, nous confie Nicole Trudeau. Se situer dans l'espace. Pour recréer dans sa tête le décor de Pifluisant, elle a parcouru de long en large la scène, touché les lourds rideaux, senti les fils électriques qui courent sur le mur et soupesé les faux fromages de polystyrène. Elle a posé plusieurs questions sur la couleur des tapis et des murs, ainsi que sur l'angle précis de l'escalier qui occupe le coin de la scène. Mais Nicole Trudeau n'était pas tout à fait satisfaite. « J'ai besoin de m'installer au centre du décor, dos à la salle, pour mieux me latéraliser. Je veux savoir exactement où se trouve chaque meuble, savoir ce qui est côté cour et côté jardin. » Le chef machiniste, Michel Eudore Desrosiers, lui a donc servi Dieu pour un instant, lui expliquant avec soin où se situait chaque élément. Ainsi, lorsqu'est venu le temps de la représentation, Nicole Trudeau pouvait situer chaque acteur sur la scène qu'elle avait créée dans sa tête. La provenance de la projection de voix des interprètes faisait le reste. Elle a aussi pu syntoniser la théâtrodescription directement à partir de son téléphone intelligent. Pendant toute la pièce, une voix en direct a ainsi mis des mots sur ce que les spectateurs non-voyants ne pouvaient pas voir. Une tête basse de dépit, une main sur une épaule en signe de réconfort, les entrées et les sorties des divers personnages. « C'est le bonheur », lance Nicole Trudeau après la pièce. « Je fréquente le théâtre depuis mon enfance, mais certains détails m'ont toujours échappé. C'est encore plus vrai ces derniers temps. » Avec les mises en scène qui font beaucoup de place aux nouvelles technologies, comme les projections vidéo. Pour cette femme d'action, qui a longtemps travaillé comme professeure de musique, en plus de participer à diverses recherches sur la normalisation du braille dans l'édition, l'ouverture des théâtres aux clientèles non-voyantes est un pas qui devait se faire. J'ai le droit d'avoir des services qui rendent certaines choses accessibles. J'en ai déjà parlé à des directeurs de théâtre. J'ai même écrit à Robert Lepage pour le sensibiliser. Ma lettre est restée sans réponse. Maintenant, j'espère que ça va continuer et que les initiatives du Rideau Vert vont se répandre dans les autres théâtres. Ouverture enfin. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps au théâtre pour se pencher sur la problématique de l'accessibilité des personnes non-voyantes? C'est une vaste question. Dans la société, la déficience visuelle est perçue très négativement. Certains pensent que sans la vue, on ne peut rien faire, et surtout pas aller au théâtre. Ça me peine toujours d'être perçu comme quelqu'un qui est moins que les autres, quelqu'un qui n'a pas besoin de ça, la culture, dit Nicole Trudeau. C'est difficile à vivre, mais ça me rend plus combative. Lance celle qui assiste à plus d'une vingtaine de concerts et de pièces de théâtre chaque année. Grâce au programme proposé depuis septembre 2022 par le Rideau Vert, elle a l'impression qu'une porte s'ouvre. Nicole Trudeau est toutefois consciente que, pour que ses services s'implantent pour de bon, les personnes avec des limitations visuelles ou auditives doivent faire l'effort de se déplacer pour fréquenter le plus possible les beaux textes et la culture. Parce que ça nourrit la vie, dit-elle. Il faut aussi que les théâtres élaborent des stratégies avec nous et ne décident pas à notre place de ce qui pourrait nous intéresser ou non. Il faut qu'il y ait un partage. Je veux qu'on soit compris et qu'on ne nous considère pas comme des gens qui doivent être exclus de certains univers. Elle ajoute, « Moi, j'ai beaucoup de mal à dire que quelque chose n'est pas pour moi. » C'était « Au théâtre avec une personne non-voyante », un texte de Stéphanie Morin, paru le 22 avril 2023 dans La Presse.
Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le Démagazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir. Arrivé tel un météore dans le paysage littéraire des années 1980, Christian Mistral a brillé avant de sombrer. Certains auteurs semblent immortels, d'autres sombrent dans l'oubli. Après un temps, qu'en reste-t-il? Dans sa série mensuelle « Faut-il relire ?», Le Devoir revisite un de ses écrivains avec l'aide d'admirateurs et d'observateurs attentifs. Aujourd'hui, Christian Mistral, 1964-2020, premier auteur québécois à y faire son entrée, lui dont la sienne fut fracassante dans le monde des lettres au milieu d'une décennie morose. Il a connu les salons du livre et les cellules de prison, celle de Parthenay et de Bordeaux, l'ivresse du succès et l'émigraine des lendemains de veille, l'étiquette d'enfant terrible puis celle de batteur de femmes. On le reconnaissait aussi à ses allures de dandy, son éternel chapeau bien rivé sur sa tête, ayant fait de la rue Saint-Denis son royaume, et certains bars, dont les Beaux Esprits, ses quartiers généraux. Christian Mistral ne souhaitait jamais passer inaperçu, du moins à l'époque de sa gloire lors de la publication de Vamp en 1988. Ce premier roman, écrit par un jeune homme de 23 ans qui n'avait guère flâné sur les bancs d'école et carburait déjà à l'alcool, a été reçu tout autant comme une bombe que comme un manifeste, celui de la génération X à laquelle Mistral s'identifiait totalement. Sans compter ses descriptions de Montréal qui, sous son regard, débordaient de sensualité, mais suintaient aussi le désespoir. L'écrivain, il faut le dire, était précoce en bien des domaines, lui qui avait publié, à compte d'auteur, son premier recueil de poésie à 14 ans, geste d'amour à l'égard d'une fille qui a préféré brûler son exemplaire. Marié à 16 ans, divorcé 2 ans plus tard et devenu père entre les deux. Mistral aimait aussi beaucoup les nuits de Montréal et sa toxicomanie n'était un secret pour personne. Si sa consommation posait problème, dont sur le plan financier, ses sautes d'humeur, elles, ont pris, bien avant sa mort, une dimension tristement légendaire. En effet, on ne compte plus les témoignages le décrivant à la fois d'une infidélité à toute épreuve en amitié et d'une arrogance dévastatrice dans ses plus mauvais jours. Certains ont vu aussi dans Vamp et tous les livres qui suivront Vautour, Vacuum, Valium, Léon, Coco et Mulligan, des autobiographies déguisées écrites avec un souffle romanesque parfois exceptionnel. Avant que les choses ne dérapent et que la justice ne le rattrape une fois de plus dans les années 1990, sa personnalité flamboyante ajoutait une grille d'analyse à une œuvre personnelle et foisonnante. Jean-Roch Boivin, ancien critique littéraire au Devoir et au Voir, récemment décédé, disait de lui qu'il se comporte dans la vie comme une réincarnation de Jean-Paul Sartre. Rien de moins. Une affaire de famille. Âgé de 81 ans et maintenant à la retraite, André Vanasse se souvient avec vivacité de sa rencontre avec Christian Mistral. Alors directeur littéraire chez Québec Amérique, il n'avait pas terminé le manuscrit de Vamp que déjà il pressait son auteur de le publier à son enseigne. Avec le succès que l'on sait, et les dérives qui ont suivi. Car celui qui était également professeur de littérature à l'UQAM et romancier, La saga des Lagacés, La vie à rebours, La flûte de Raffi, reconnaît qu'il avait avec Mistral une sorte de relation père-fils. En effet, le parolier de Soir de scotch, le grand succès de la chanteuse Luce Dufaux, noyait souvent sa peine de ne pas avoir connu son père biologique, une des nombreuses blessures que Mistral cachait tant bien que mal, et que ses comportements erratiques trahissaient souvent. « Je n'ai jamais eu peur des Christian Mistral de ce monde », clame André Vanasse, admettant tout de même qu'autant de Québec-Amérique comme chez XYZ, où il poursuivra son travail d'éditeur dès les années 1990, il lui en fit voir de toutes les couleurs. Ce que corrobore son fils, Alexandre Vanasse, éditeur de Lettres québécoises, impliqué très tôt aux côtés de son père dans le milieu littéraire. Je me souviens encore d'un appel de la secrétaire chez XYZ, complètement paniquée, pour que je m'interpose au plus vite entre Christian et André. Il ne se battait pas, mais ça criait allègrement. Se souvient celui qui est vite devenu le frère adoptif de Mistral. Quant au père de substitution, il demeure convaincu que Mistral ne l'aurait jamais frappé, tout en admettant qu'en vérité, ce qui l'a tué, c'est sa violence. Alors qu'il défrayait davantage la chronique judiciaire que littéraire dans les années 1990, Christian Mistral connaissait déjà les arcanes de la justice, reconnu coupable de fraude dès 1984, d'entrave et d'intrusion en 1989. Des faits d'armes que Louis Hamelin ignorait, lui qui l'a bien connu au moment de sa fulgurante ascension, qui coïncidait avec la sienne. Son premier roman, La Rage, publié en 1989 chez XYZ, lui vaudra le prix du gouverneur général et le respect de celui avec qui il partageait le même directeur littéraire, André Vanasse. À cette époque, les deux écrivains issus de la même génération et vite devenus ses chantres désenchantés se fréquentaient à l'occasion, au point où Mistral disait d'Hamelin qu'il était lui aussi son frère. Il cherchait son père, il se cherchait une famille et enviait beaucoup la mienne, affirme celui qui est également chroniqueur au Devoir. Mais il prenait beaucoup de place, déplaçait beaucoup d'air et nous n'avions pas la même vision de ce qu'est un écrivain. Moi, reclus dans sa cabane dans les bois, lui fasciné par des écrivains maudits comme Jack Kerouac ou Henry Miller. À un moment donné, ce n'était plus soutenable. J'ai dû m'éloigner pour préserver ma santé, tant physique que mentale. Au fond, c'était quelqu'un d'assez malheureux. Ça n'excuse rien, mais ça explique certaines choses. Légende ou étoile filante? Hamelin reconnaît toutefois qu'on ne pourra jamais enlever à Mistral son talent rare, éblouissant dans Vampes, bien affirmé dans Vautour, même si l'auteur de La Constellation du Lynx reconnaît qu'il existe deux camps retranchés. Certains vénèrent le premier livre, d'autres le second. J'ai relu des pages de Vampes avant notre entretien. Peu importe ce que l'on pense du personnage et de sa vie, c'est un classique de la littérature québécoise. À l'époque, ce livre fut pour moi un choc et a façonné l'écrivain que je suis devenue. Cette plume fulgurante et les concerts d'éloges qu'elle suscitait ont fini par, sans mauvais jeu de mots, enivrer Christian Mistral. Son alliance avec André Vanasse fit un temps, les deux hommes ayant pris leur distance. Quant à Alexandre Vanasse, il n'avait jamais complètement coupé les ponts avec lui, le visitant à l'occasion dans son petit logement de la rue Rachel, où il finira ses jours. Se souvenant aussi bien d'un être nettement plus intelligent que la moyenne que d'un gars qui pouvait débarquer chez lui à 3 heures du matin après s'être battu dans un bar, il aurait bien aimé renouer avec lui sur le plan professionnel. Je lui ai proposé une chronique dans Lettres québécoises. La première, sur Gilles Vigneault, était magnifique, mais après, il nous donnait ses fonds de tiroir, réclamait sans cesse des avances, ça ne pouvait plus continuer. Une désinvolture à laquelle son père a aussi été confronté. Figure marquante de la littérature québécoise, certes, mais une figure marquante, ça doit travailler. Oui, il est devenu quelqu'un, mais ce n'était quand même pas Jésus-Christ. En entrevue à la presse en 1995, Christian Mistral pressentait déjà le rapport ambigu que l'on aura avec son œuvre et que sa disparition n'a pas complètement effacé. C'est peut-être mon seul objet de tristesse. J'ai toujours voulu que mes livres se défendent par eux-mêmes, qu'ils soient lus en dehors de la connaissance que l'on croit avoir de l'auteur. Est-ce que ce sera toujours possible? C'était Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le D Magazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir.
Cinq mythes sur la grossesse pour autrui. Un texte de Clémence Trilling, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Le 23 février 2023, le gouvernement caquiste déposait le projet de loi 12, PL 12, encadrant la grossesse pour autrui, GPA, visant la protection des intérêts de l'enfant et des mères porteuses. Le ministre Simon-Jolin Barrette rappelle que les enfants sont ce que nous avons de plus précieux et que c'est leur intérêt qui doit primer et guider toutes nos décisions. Ce projet de loi permet-il d'atteindre ces objectifs? Est-il bâti sur une véritable acceptation sociale, une connaissance de cette pratique ou repose-t-il sur des mythes? Examinons-en quelques-uns. Mythe numéro 1. La GPA est une entraide familiale ou amicale. La GPA est perçue comme un geste de solidarité d'une femme envers une sœur ou une amie infertile. Bien que le ministre Jolin Barrette utilise plusieurs exemples d'entraide familiale en commission parlementaire pour justifier des assouplissements de la loi, il n'en demeure pas moins que dans la majorité des cas, 78% selon un échantillon ontarien, les parties font affaire avec des agences intermédiaires pour établir des contrats commerciaux qui sont exécutés par des cliniques de fertilité et des banques d'ovocytes. Les parties ont aussi parfois recours à des avocats, institutions prêteuses et compagnies d'assurance. Tous ces intervenants constituent une industrie dont l'objectif est de générer des profits qui atteindront mondialement 27 milliards de dollars en 2025. Les rouages de cette industrie sont basés sur l'altruisme des femmes. Mythe numéro 2. L'encadrement de la GPA est guidé par l'intérêt fondamental de l'enfant. Objectivement, toute séparation d'avec sa mère biologique crée un préjudice au nouveau-né. Cette séparation précoce est d'ailleurs interdite pour les animaux domestiques d'élevage. Comment pourrait-elle être dans l'intérêt fondamental d'un bébé humain? L'accès à la connaissance de ses origines est un besoin fondamental et intrinsèque chez les enfants, dit le ministre Jolin Barrette. La GPA est souvent privilégiée devant l'adoption afin d'établir un lien génétique entre l'adulte et l'enfant. Si on reconnaît l'importance de ce lien pour l'adulte, comment justifie-t-on d'en priver l'enfant en omettant d'interdire le recours à des gamètes anonymes? Le ministre a fermé la porte à juste titre à la pluriparentalité en s'appuyant sur le fait qu'aucune étude ne démontre que cette configuration est favorable aux intérêts de l'enfant. Qu'en est-il du fait que le PL12 permette aux personnes célibataires de former une famille monoparentale par GPA dont la vulnérabilité est pourtant reconnue? Mythe numéro 3. La GPA est une solution à l'infertilité. La fécondation in vitro, FIV, technique médicale comportant beaucoup plus de risques médicaux qu'une grossesse spontanée, vise à pallier l'infertilité. Les parents d'intention désirant sélectionner le bagage génétique de l'enfant sur catalogue imposent souvent cette intervention à la mère porteuse, déjà fertile et qui n'en a pas besoin pour devenir enceinte. Les demandes provenant d'hommes, souvent fertiles, qui sont seuls ou en couple avec un autre homme, constituent 40% des GPA. L'infertilité est extrapolée à leur situation par l'introduction du néologisme « infertilité sociale ». Pour pallier cette infertilité sociale, la GPA, par FIV, fait prendre des risques inutiles pouvant engendrer une infertilité pour les mères porteuses alors que la diversité des modèles familiaux, coparentalité ou adoption, est pourtant déjà reconnue par le droit québécois. Mythe numéro 4. Au Canada, les mères porteuses ne sont pas payées. Les GPA ne sont pas toujours sans rémunération, contrairement aux dispositions de la loi canadienne. Maître Kirouac, devant la commission des institutions en décembre 2021, témoigne avoir constaté plusieurs paiements a posteriori de 35 000 $ pour une GPA et de 10 000 $ pour un ovocyte. Les paiements incitent des candidates à devenir mères porteuses en pénurie constante au Canada. Des mères porteuses québécoises ont mentionné des motivations économiques, dont le financement d'un retour aux études ou la perception des prestations du régime québécois d'assurance parentale pour demeurer à la maison avec leurs enfants. Malgré l'encadrement local, la loi du marché incitera des Québécois à solliciter des femmes de pays pauvres comme l'Ukraine ou le Mexique à devenir mère porteuse par précarité économique. L'offre locale demeurera soit insuffisante, soit trop coûteuse ou considérée comme occasionnant trop de délais. Mythe numéro 5. Ces changements ne concernent pas l'ensemble de la population. Le PL12 ouvre pour la société québécoise une nouvelle possibilité juridique permettant la disposition de certains enfants, ceux qui font l'objet d'un contrat avant leur conception. Or, cette conséquence collective est rarement abordée et touche l'ensemble de la population. Elle est présentée comme un don, prétendument plus éthique qu'une vente. Toute tentative de faire don d'un être humain particulier, en l'occurrence un enfant, suppose que l'on puisse disposer de n'importe quel être humain, puisque le principe d'égalité s'applique à tous. Le PL12 est une rupture qui remet fondamentalement en cause le statut légal, anthropologique et social de la maternité, soulevant de sérieuses préoccupations éthiques. Il serait encore temps pour le législateur d'entendre les groupes qui les expriment. C'était « 5 mythes sur la grossesse pour autrui », un texte de Clémence Trilling, paru le 22 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Jocelyne Langevin à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.